France Inter.
Ne serait-ce pas l'heure de votre journal, Éric Delvaux?
Tout juste. Bonsoir Éric. Bonsoir Thomas et bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, élection législative cruciale demain en Moldavie pour la poursuite du processus d'intégration au sein de l'Union européenne. Les Russes à la manœuvre pour convaincre les Moldaves de se rapprocher du Kremlin. Deuxième coup de filet à Marseille dans ce qui apparaît comme l'un des plus gros trafics en France de blanchiment d'argent entre la France, l'Italie, jusqu'au Kosovo et même la Turquie, nous expliquera Emmanuel Leclerc. La page des sports aux couleurs du Canada cet après-midi avec une Canadienne qui remporte la médaille d'or au championnat du monde de cyclisme et en rugby, finale de la Coupe du Monde, les Canadiennes espéraient bien battre les Anglaises, mais au final ce sont les Anglaises qui remportent la Coupe sur le score de 33 à 13. Enfin, nous verrons comment le comédien Christian Clavier a mis le monde du doublage sur les nerfs en vantant les bienfaits de l'intelligence artificielle. Le temps de demain, dimanche, Céline Dacosta, ce sera bien calme et plutôt ensoleillé.
Oui, on va gagner encore quelques degrés, l'ambiance sera plutôt douce l'après-midi.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. Encore donc un pays de l'Europe de l'Est, ancienne République soviétique, qui pourrait bien basculer demain sous influence russe. Élections législatives. Les Moldaves auront le choix entre les pro-européens au pouvoir ou bien les partis pro-russes. Un scrutin déjà entaché de soupçons d'ingérence russe. Et selon le résultat demain, c'est tout le processus d'intégration de la Moldavie à l'Europe qui serait remis en cause. À Chișinău, capitale de la Moldavie, reportage de notre envoyé spécial Virginie Pironon.
En bonnet rouge, Marina, 55 ans, vend des choux sur le marché de Chișinău. Une sœur à Toulouse, un fils à Londres, elle a fait son choix.
Tous les Moldaves veulent rejoindre l'Union européenne parce que nos enfants sont là-bas. Nous avons des passeports roumains. Mon fils habite en Grande-Bretagne. Je vais souvent le voir. Tout le monde préfère être du côté de l'Europe, pas de la Russie.
Raïssa vit à Chișinău depuis 1971. Ces dernières années, elle a vu les résultats des investissements européens.
Nous voulons rejoindre l'Union européenne parce qu'elle nous aide beaucoup pour les nouvelles constructions, les retraites. Ils réparent les musées, les parcs, ils font beaucoup.
Iulian Groza est ancien vice-ministre des Affaires étrangères de la Moldavie, responsable de l'intégration européenne.
On se bat pour protéger notre démocratie, notre souveraineté. Mais la Russie a toujours eu d'autres plans pour nous. Son objectif, c'est de ne pas permettre au pays de se développer et de poursuivre sa voie vers l'Union européenne, en empêchant à minima les pro-européens d'être majoritaires au Parlement.
Le rôle des Moldaves de l'étranger sera crucial dans ces élections. La diaspora représente 20% du corps électoral.
Virginie Pironon, envoyée spéciale de France Inter en Moldavie. Et comme pour mieux motiver ses partisans en Moldavie, la Russie, via son service de renseignement extérieur, a prétendu cette semaine dans un communiqué que les troupes de l'OTAN se préparaient à envahir la Moldavie. L'Allemagne va autoriser ses forces armées à abattre des drones en cas d'intrusion sur son territoire. Ça fait suite à l'observation hier en Allemagne d'un essaim d'appareils d'origine inconnue repéré donc dans le nord du pays. Eux convertissaient les billets de banque en lingots d'or et ils faisaient disparaître toute traçabilité. À Marseille, cette semaine, l'un des plus gros trafics de blanchiment d'argent de la drogue a été mis au jour grâce aux gendarmes français et italiens. Et puis deuxième coup de filet ensuite avec cette fois 9 personnes interpellées. Et cet après-midi, bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Cet après-midi, le procureur de Marseille a précisé le fonctionnement de ce qui apparaît donc comme l'un des plus gros réseaux de trafic en France et qui implique la DZ Mafia.
Et cela fait un total de 16 personnes interpellées en l'espace de quelques jours. Opération San Sirio, pas de lingots d'or retrouvés cette fois, mais tout de même 300 000 euros, 6 véhicules, maroquinerie de luxe, bijoux saisis. Le procureur de Marseille et le chef de la section de recherche de la gendarmerie ont effectivement détaillé à la mi-journée les rouages de cette blanchisseuse mise au jour, comment des petites mains, des Syriens et des Kosovars venaient à Marseille récupérer l'argent des points de deal, du cash, envoyé à Milan, en Italie, pour acheter des lingots d'or fabriqués dans l'une des fonderies clandestines de la région.
Et une fois les lingots d'or fabriqués en Italie, eh bien, ils étaient envoyés un peu au Kosovo et beaucoup en Turquie. Mais pourquoi la Turquie, Emmanuel ?
Alors parce que le Kosovo, dans une moindre mesure, et surtout la Turquie, sont en train de devenir, pour les polices européennes, des seconds marchés du trafic d'or et du blanchiment massif de l'argent de la drogue derrière Dubaï. Et on sait que plusieurs gros trafiquants français qui vivaient tranquillement à Dubaï, justement, sont allés s'installer récemment à Istanbul ou Ankara parce que l'émirat est désormais un peu plus regardant sur l'origine des investissements immobiliers ou autres. Cela faisait des années, en tout cas Eric, qu'il n'y avait pas eu une telle opération en France, à l'image des opérations Virus et Rétrovirus de la police judiciaire, mais ça remonte à 2012 avec le démantèlement de réseaux de vente de cannabis qui brassaient des centaines de millions d'euros, blanchis initialement et en bonne partie en lingots d'or, triangle entre la France, le Maroc et Dubaï.
Emmanuel Leclerc, service police-justice d'Inter. Sébastien Lecornu devrait annoncer la semaine prochaine la composition de son gouvernement avant le début des travaux parlementaires, dit-il ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. La session parlementaire ouvre bien mercredi prochain, 1er octobre, mais les travaux parlementaires, eux, ne débuteront qu'à partir de lundi 6 octobre. Quoi qu'il en soit, ce lundi à 13h, tous les chefs de parti et de groupe de la coalition gouvernementale seront conviés à Matignon, à l'heure du déjeuner donc. Deux enquêtes sont ouvertes après des menaces contre la présidente du tribunal qui a condamné Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison ferme, des menaces de mort assorties d'images de guillotine sur les réseaux sociaux. Dans cette affaire Sarkozy, les juges n'ont pas été au-dessus de tout soupçon, disait sur France Info TV le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.
Dans une démocratie, il faut qu'on s'habitue à ce qu'un homme politique n'est pas de privilège par rapport à la justice. Et donc, les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois. Mais il ne faut aussi pas que les hommes politiques soient en dessous des lois. Et dans l'affaire de Sarkozy, ce qui me choque, c'est l'exécution provisoire, parce que dans le droit, l'exécution provisoire, j'ai appris à la fac, c'est la récidive, c'est la fuite, et c'est l'ordre public. Or, je ne crois pas qu'un homme de 70 ans, quel qu'il ait été président de la République ou pas, va assassiner personne, va pas s'enfuir, et voilà. Et donc j'ai le sentiment que Nicolas Sarkozy est un peu une cible. Il y a une sorte de vengeance malsaine de certains juges.
Il y en avait 29 des juges, vous pensez qu'ils étaient tous contre lui du même avis ?
Non, mais ne pensons pas rendu service même à l'état de pacification, de réconciliation nécessaire entre la démocratie et la justice.
Et quant au ministre démissionnaire de la Justice, Gérald Darmanin, il condamne sans aucune réserve les menaces envers les magistrats. C'est la première fois en France qu'une rue porte le nom d'un ouvrier mort sur son lieu de travail. Une allée Amara Diomassi. Cette allée a été inaugurée cet après-midi dans le 13e arrondissement de Paris. Amara Diomassi, immigré malien, mort en 2023 pendant les travaux d'aménagement de la Seine durant le grand chantier des Jeux Olympiques de 2024. Une allée donc à son nom pour sortir de l'oubli tous ces morts dits invisibles. Écoutez ce reportage d'Agera Mohamed cet après-midi dans le 13e arrondissement de Paris.
L'allée Amara Diomassi est en plein cœur d'un petit square, à quelques mètres de l'endroit où l'ouvrier a perdu la vie.
On fait peut-être une minute de silence.
Ouais. Instant de recueillement déchiré par les larmes de sa veuve, venue avec ses quatre petites filles qui l'entourent. Elles ont toutes moins de 10 ans.
Énormément d'émotions.
Dodo Fadiga est le beau-frère de la victime.
C'est un ouvrier qui était fier d'aller au travail tous les jours, très investi pour les enfants. Ça va être un lieu où ils vont pouvoir penser à leur père.
Merci à vous tous.
Merci. Personne ne devrait mourir à cause du travail.
C'est la CGT qui s'est battue pour obtenir cet hommage, insiste Mathieu Dougou, représentant de sa branche construction. Il alerte depuis des années avec son syndicat sur les morts au travail.
Encore aujourd'hui, il y a plus d'un mort par jour dans le BTP. Alors des solutions, on en a. Le retour de l'inspection du travail, plus d'inspecteurs du travail exactement. Et les patrons qui re-signent, les entreprises qui n'ont pas fait ce qu'il fallait sur la sécurité ne doivent plus avoir le droit de répondre à des appels d'offres.
Désormais, si vous passez par l'allée Amara Diomassi à Paris et que vous levez la tête, vous les apercevrez aussi. Ces gigantesques grues, c'est un chantier de construction comme il y en a tant d'autres dans la capitale, avec des dizaines d'ouvriers qui y travaillent.
Reportage d'Agera Mohamed. La Coupe du Monde féminine de rugby avec cet après-midi une nouvelle désillusion pour les Bleus, battus 42 à 26 par les Néo-Zélandaises dans ce qu'on appelle la petite finale. Les Bleus n'ont donc pas récupéré le bronze. Et dans la grande finale, il y a 20 minutes, les Anglaises ont battu les Canadiennes 33 à 13. Les championnats du monde de cyclisme à Kigali au Rwanda chez les femmes, on espérait aujourd'hui une performance de la Française Pauline Ferrand-Prévot, mais c'est finalement une Canadienne, Magdalene Vallière, qui a créé une immense surprise en devenant championne du monde de cyclisme sur route. La coureuse canadienne de 24 ans a donc profité d'un peu de manque de réactivité de toutes les favorites, dont la Française Pauline Ferrand-Prévot, qui reconnaît ce soir avoir un peu manqué de tactique.
C'est vrai que c'était assez tactique. J'ai marqué Demi m'a marqué, et puis on s'est un peu toutes tirées vers le bas. Donc voilà, mais c'est aussi, voilà, je suis pas du monde, c'est souvent plus tactique que physique, je dirais. Mais ouais, je suis pas déçue pour moi, parce que j'ai vraiment donné le max. J'étais pas dans un grand jour, mais après en altitude, c'est aussi difficile de dire avec les sensations. Ouais, globalement, j'ai rien à regretter. Je suis déçue forcément pour l'équipe, parce qu'elle a travaillé pour moi toute la journée. Mais voilà, on a Choupa d'Europe la semaine prochaine, et je sais que je peux leur rendre la monnaie de la pièce la semaine prochaine en roulant notamment pour Juliette et en essayant d'aller chercher le maillot avec Juliette ou une autre fille.
La Française Pauline Ferrand-Prévot, interrogée par Fanny Lechevestrier, notre envoyée spéciale au championnat du monde de cyclisme à Kigali, Rwanda. Nous partons au Japon, dans la ville de Toyohake, car là-bas, les élus ont voté un arrêté qui demande à tous les citoyens, enfants comme adultes, de réduire le temps passé devant les smartphones et autres tablettes. L'arrêté municipal veut limiter l'utilisation des écrans à moins de 2 heures par jour, hors travail et hors études. Reportage de notre correspondante au Japon, Karine Nishimura.
Tomomi, résidente de la ville moyenne de Toyohake, en banlieue de Nagoya, au centre du Japon, a appris par la télévision le vote d'un arrêté municipal sur le temps d'usage des smartphones, 2 heures par jour, hors travail et études. Sa réaction a fusé.
Un arrêté municipal, c'est rude. Moins de 2 heures par jour, ça ne suffit pas. Ceci dit, il est bien de prendre conscience de cet usage excessif. Dans le train, tout le monde regarde son smartphone.
Même scepticisme pour cette maman d'une collégienne qui passe jusqu'à 6 heures par jour le week-end devant son écran.
6 heures, c'est beaucoup, mais inversement, je pense que 2 heures, c'est trop court.
Masafumi Koki, le maire de Toyohake, n'est pas surpris par ces réactions hostiles. Il s'y attendait, mais il s'agit selon lui de santé publique. En raison de décrochage scolaire, de temps de sommeil réduit et de relations sociales dégradées par l'usage intensif et solitaire du smartphone.
L'impossibilité de se défaire de son smartphone est un problème qui ne concerne pas que les enfants, mais tous les âges. Et nous avons conclu que l'arrêté municipal était nécessaire comme moyen de frapper fort pour attirer l'attention des administrés, ne serait-ce que sur la nécessité de réduire le temps du smartphone au profit du temps de sommeil.
Cet arrêté municipal est non contraignant et non assorti de son Toyohake, Karine Nishimura, France Inter.
Dans le milieu du cinéma à présent, les mots de Christian Clavier continuent de crisper les comédiens qui vivent du doublage, car l'acteur des Visiteurs dit se réjouir des avancées de l'intelligence artificielle qui permettent, selon lui, de meilleurs doublages à l'étranger. Et voilà comment Christian Clavier a donc mis le monde du doublage en ébullition, Victor Vasseur.
Oui, à rebours de nombreux acteurs et réalisateurs, Christian Clavier se veut optimiste. Car l'IA est capable de reproduire sa voix dans une autre langue et d'adapter le mouvement de ses lèvres, donc plus besoin de comédiens de doublage. Même si cette technologie est encore balbutiante, l'acteur approuve cette perspective.
C'est désolant pour les doubleurs, mais il faudra qu'ils se reconvertissent dans autre chose. Les films que je fais se vendent très souvent à l'étranger. Il y a des gens très bien qui me doublent, mais quelque part je vais être aussi plus content moi de ne pas être doublé et que je joue moins dans ces films-là.
Dans les commentaires de cette vidéo, plusieurs comédiens spécialisés dans le doublage critiquent ces propos, se sentent offensés. Patrick Cuban est la voix off de la chaîne Canal+.
C'est un manque de respect. En fait, il est en train de vendre un peu son âme à la technologie. C'est un peu dommage. Nous, ce qu'on demande, c'est réguler cette menace. Mais là, d'un seul coup, Christian Clavier, il veut libérer la menace.
La filière emploie 15 000 salariés en France, dans une vingtaine de métiers différents. Pour Patrick Cuban, l'IA doit être utilisée à bon escient.
C'est réduire, en fait, le, le doublage à un algorithme, à quelque chose de froid, il y a une sorte de robotisation.
Le collectif Les Voix et les syndicats du secteur demandent une meilleure protection de leur métier avec un encadrement plus strict de l'usage de l'IA dans les productions audiovisuelles et le doublage.
Victor Vasseur. Enfin, son truc à lui, c'est de grimper à main nue, sans assistance, sur les plus hautes tours d'Europe. Le français Titouan Leduc, 24 ans, il a été arrêté aujourd'hui à Varsovie lors de l'escalade du plus haut gratte-ciel de l'Union européenne, la Varso Tower. Elle domine Varsovie à 310 mètres de hauteur. Titouan Leduc a été arrêté dans sa progression à 230 mètres de hauteur. Avant d'être emmené par la police, menottes au poignet. Le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Demain, on va se rapprocher des fameuses normales de saison.
Oui, en tout cas l'après-midi avec une légère hausse du mercure encore. On attend 17 à 21 degrés en général, 22 à 25 du sud de la Garonne à la Méditerranée. Ambiance douce donc l'après-midi, mais ce sera toujours très frais le matin. 3 à 8 degrés sur la moitié est du pays, 7 à 12 sur l'ouest et près de la Méditerranée.
Et la couleur du ciel demain, ça donnera quoi?
Alors on aura du bleu avec des éclaircies qui seront quand même bien présentes, mais aussi du blanc puisqu'on aura pas mal de passages nuageux et du gris également puisque la perturbation qui est arrivée aujourd'hui sur la Bretagne va rentrer un petit peu dans les terres demain, apportant quelques ondées entre les Pays de la Loire et le Cotentin dans l'après-midi. Le ciel sera également un petit peu plus voilé sur le quart sud-ouest, mais globalement ça sera quand même un beau dimanche.
Bleu, blanc, gris, le drapeau de demain dans le ciel. Les prévisions de Céline Dacosta.